Pour conclure cette émission en profondeur, Mathieu Coeurfranc vient nous présenter la chronique des apatrides anonymes de cette semaine. Je passe la parole à Mathieu.
Bonjour Emma, bonjour Salomé, merci de me passer le micro pour cette chronique. Donc, les apatrides anonymes, on a continué tout l'été à venir vous informer sur l'actualité au niveau de l'immigration et de la sécurité nationale. Juste noter aussi qu'à partir de septembre, on va revenir aux 2 semaines au lieu de 3 semaines, donc vous aurez encore plus d'informations, malheureusement pas très joyeuses souvent. Dans ce contexte électoral qu'on se fait imposer depuis quelques jours, je voulais quand même souligner quelques événements qui se sont passés dans les dernières semaines, quelques informations qui vont un peu donner le ton à ce qui s'en vient dans les prochains mois, parce que nous, en général, on couvre l'actualité fédérale, vu que ces questions sont de juridiction fédérale. L'ONU a... Le comité des droits de la personne des Nations Unies a sorti son bilan, son rapport sur les droits de la personne au Canada, après des visites et des entrevues. Encore une fois, c'est assez accablant. Les sujets reviennent malheureusement souvent aux mêmes. Arrestation de masse dans les manifestations, utilisation excessive de la force dans ces mêmes manifs, violence envers les femmes autochtones. On a aussi la question des migrants, la question des lois antiterroristes. Donc, évidemment, la grosse partie du rapport est sur les femmes autochtones tuées ou disparues, avec une demande d'enquête, comme beaucoup de gens le demandent. Sur la loi antiterroriste, plus précisément, on dénonce encore une fois les pouvoirs accrus de la GRC et du SRS qui ont été donnés dans la dernière mouture qui a été votée au mois de juin dernier, le fameux C-51. Donc, on parle de risque pour les droits de la personne, évidemment. Et on souligne aussi que cette loi, si elle est appliquée et qu'elle continue à exister, pour entraîner le Canada à contrevenir à plusieurs conventions internationales dont il est signataire, ce qu'on s'est fait dire aussi par plusieurs experts et plusieurs groupes de défense des droits. On souligne aussi dans ce rapport-là la violence... les violations des droits de la personne commises à l'étranger par les compagnies minières canadiennes, dont on entend souvent parler aussi. Sur les migrants, on dénonce entre autres l'emprisonnement sans limite pour les demandeurs d'asile et les déportations massives. Droit de manifester, évidemment, on parle des sommets du G20, des grèves au Québec en 2012 et des récentes manifestations en 2015. Donc, toujours aussi accablant pour le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. On parle même de la loi sur l'impôt qui est utilisée contre certaines ONG ou groupes communautaires. Ça aussi, on a entendu parler. Évidemment, le gouvernement dénonce le manque de coopération du gouvernement dans ces dossiers-là. Donc, la suite, ça sera plus tard dans les prochains mois. On verra ce qui se passera pour la réponse du fédéral. Toujours dans le contexte pré-automne, préélectoral, en plus de la loi C-51, les sénateurs ont déposé un rapport sur l'extrémisme violent. Ça, c'était au début juillet. C'était le rapport, le Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense du Sénat. Donc, on va encore plus loin que la loi C-51. Il faut dire que c'est des sénateurs conservateurs qui ont signé ce rapport-là. On parle de criminaliser le fait de devenir membre d'une organisation terroriste, envisager d'interdire toute glorification des terroristes. On parle de l'apologie, un peu comme en France. On parle aussi de faire une liste des personnes qui prônent des idéologies radicales, menaçant la sécurité du pays, de la rendre publique. On parle aussi de formation et de certification pour les imams au Canada. On parle d'un programme pour appuyer les familles qui signalent la radicalisation d'un proche. Donc, ça va assez loin quand même au niveau des conséquences que tout ça pourrait avoir. Mais dans leur discours, c'est vraiment le discours conservateur. L'extrémisme violent est une menace réelle, tant pour la vie que pour le mode de vie des Canadiens. Nous devons trouver toutes les ressources, outils et techniques à la disposition d'une société civilisée pour affaiblir et vaincre une force des plus sauvages. Donc, on est dans la dichotomie haut la main. Donc, on va, comme je vous disais, plus loin que projet de loi Omnibus. C'est un rapport, qui risque de tomber dans les limbes, mais quand même, on voit un petit peu le ton qu'on a actuellement à Ottawa. La fameuse loi antiterroriste qui a été adoptée tout récemment est déjà contestée en cours par deux groupes, l'Association canadienne des libertés civiles et le Canadian Journalists for Free Expression. Ces deux groupes la jugent plus pernicieuse et plus dangereuse que la loi sur les mesures de guerre qui existe déjà dans la Constitution canadienne. On conteste, entre autres, les pouvoirs accrus pour le SCRS, qui permet aux agents de déjouer des complots et pas seulement d'enquêter. On dénonce l'élargissement des pouvoirs liés à la liste des voyageurs interdits. On dénonce que la GRC puisse obtenir une ordonnance de la Cour afin de limiter les mouvements d'un suspect. On dénonce la prolongation de la période de détention préventive jusqu'à 7 jours sans accusation, ce qui est assez important. Et aussi, on dénonce la création d'un nouvel acte criminel, j'en parlais tantôt, l'incitation à commettre un acte terroriste ou l'apologie. Voilà, donc ça, c'est un autre élément dans le contexte. Une situation peut-être dont les gens ont moins entendu parler. Il y a des morts en prison au Canada. Il y a des immigrants en détention qui meurent dans les prisons canadiennes. Il y en a eu 12 depuis l'an 2000 et c'est quelque chose dont on a peu parlé. Il y a un Somalien de 39 ans qui est mort le 11 juin dernier dans la prison de Lindsay en Ontario, une prison qui a une aile pour les immigrants. Et on l'a su parce que la mort d'Abdourahmane Ibrahim Hassan a été dénoncée par 88 de ses co-détenus, ce qui est un geste assez rare parce que les détenus immigrants ont rarement les possibilités de faire des actions collectives et s'ils en font, ils ont souvent des pénalités individuelles et collectives. Donc, ils ont décidé de faire une pétition pour demander une enquête du coroner parce que finalement, dans ces cas-là, en général, il n'y a même pas d'enquête du coroner, il n'y a même pas vraiment d'enquête, on ne sait pas ce qui se passe. Le nom officiellement du détenu dont je vous ai donné, il n'est pas sorti officiellement encore. Donc, il serait mort après avoir été contraint par des agents de sécurité, des agents de prison de façon violente. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir cette pétition, parce qu'il y a une pétition qui circule pour avoir cette enquête du coroner, et aussi aller voir plus d'informations là-dessus, cherchez sur Internet Call a Coroner's Inquest et cherchez le groupe N-Immigration Detention Network, qui est le groupe qui s'occupe, entre autres, de défendre les droits en Ontario, surtout des gens en prison au niveau de l'immigration. Donc, un cas qui pourrait être dans l'actualité, même dans la campagne électorale, mais évidemment qu'il ne l'est pas. Pour finir sur ce contexte, vous dire que avant-hier, Harper a annoncé dans ses promesses électorales qu'on continue la surenchère au niveau de la sécurité puis de la peur qu'on veut créer chez les gens. Donc, on parle d'un projet de loi éventuel pour empêcher les Canadiens de se rendre dans certaines zones du monde où des groupes terroristes recrutent et forment des militants. On parle d'une infraction criminelle pour le fait de se rendre là. On parle entre autres de la Syrie et de l'Irak. On calque un projet de loi australien qui a été adopté l'an dernier. Mais finalement, on ne donne pas plus de détails que ça sur ce projet de loi-là, mais ça fait partie du contexte donc actuellement qui doit nous préoccuper. Fait que pour le Canada, ça fait le tour. Je vais faire un petit peu d'international, si ça vous va. Donc, ça non plus, c'est pas très joyeux. On continue à parler beaucoup de ce qui se passe en Europe au niveau de la crise, ce qu'on appelle la crise des migrants et des réfugiés. On entend régulièrement parler de morts en mer, aussi de morts à l'Eurotunnel pour aller en Angleterre. Malheureusement, la semaine passée, le cap des 2000 migrants et réfugiés morts en mer a été dépassé. Dans la Méditerranée seulement. Donc, on parle de plus de 2000. D'ailleurs, il y a eu un autre incident assez important la semaine dernière où 200 personnes sont décédées. On en a récupéré 400. Donc, un bateau de 600 personnes qui avait quitté la Libye qui a chaviré en mer Méditerranée. Pour avoir un comparatif, peut-être dire que pour la même période en 2014, à cette date-ci, il y avait 1600 personnes qui étaient mortes en traversant la Méditerranée. On est à plus de 2000. L'année passée, il y avait eu 3200 morts dans l'année. Donc, c'est assez important et on parle de 200 000 personnes qui sont arrivées par la mer cette année en Italie et en Grèce. Donc, ça aussi, c'est un autre record. Donc, le problème ou la situation persiste. Et pendant cela, la réponse souvent des autorités européennes, c'est de mettre de l'argent sur la sécurité, de criminaliser, de pénaliser les gens et non pas de régler les problèmes à la source. Donc, on continue ici aussi la surenchère de mesures de sécurité et de budget de sécurité. La France, qui est beaucoup sur la sellette depuis quelques semaines en raison de l'afflux de migrants à Calais pour prendre les gens qui veulent aller en Angleterre par le biais de l'Eurotunnel, il y a eu des morts. Il y en a eu 9 depuis juin, dont un la semaine dernière. Donc, il y a des milliers de personnes qui essaient à chaque nuit de rentrer sur les bateaux ou sur les camions qui se rendent en Angleterre. On sait qu'il y a près de 5000 migrants en permanence à Calais dans des camps de fortune un peu en dehors de la ville. On parle en général dans les grosses soirées de 2000 personnes qui essaient de rentrer sur le site d'Eurotunnel. Évidemment, ça, c'est un site ultra protégé avec une sécurité privée, mais aussi avec des gendarmes et aussi des agents britanniques. Et récemment, suite à cette nouvelle-là qu'il y a des morts et qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient d'opérer, on ajoute des membres de police. On en a rajouté 120 la semaine passée ou 350 déjà sur place du côté français. Et du côté anglais, ce qu'on fait, c'est qu'après avoir annoncé 15 millions il y a quelques semaines, on en rajoute 10 millions pour renforcer les clôtures. On envoie des agents britanniques sur place. On parle d'une centaine qui ont été envoyés donc depuis la semaine passée. On parle de chiens renifleurs. On parle de toutes sortes de trucs comme ça qui sont plus ou moins bon, c'est anecdotique, on pourrait dire, si ça visait pas des personnes réelles, mais ça fait qu'on est toujours dans l'approche sécurité, dans l'approche renforcement des frontières, dans l'approche pénalité, et le problème de fond, on le sait de plus en plus. Même certains officiels européens le disent depuis quelques temps, en Italie, comme en Grèce, comme aussi en France, ça ne règle pas le problème de fond. On parle d'une situation internationale et on parle d'une coopération qui devrait se faire de plus en plus entre les pays. Donc, peut-être vous dire aussi en terminant, sur le lien entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre, en réponse aussi à la situation, donc envoie de l'argent, sécurise les frontières, mais aussi ils veulent déposer un projet de loi à l'automne qui va criminaliser les propriétaires d'appartements qui louent leur logement à des immigrés clandestins en Angleterre. Donc, ils veulent tarir l'arrivée et non pas juste la source. Donc, jusqu'à 5 ans de prison pour les propriétaires qui louent un appartement à des gens dont ils n'auront pas vérifié la situation légale. Et on parle aussi de saisir les salaires des travailleurs clandestins en Angleterre. Donc, ça, c'est l'Angleterre qui a toujours été un peu plus relax que d'autres pays en Europe là-dessus. Se fait dire de durcir le ton, donc le fait. Donc, ils s'imaginent qu'en mettant plus de sécurité aux frontières et en mettant plus de pénalités aux gens qui réussissent à arriver, ça va endiguer le flux de personnes. Mais on sait très bien que la situation dans les pays d'où proviennent les gens est de plus en plus difficile. Donc, vous voyez un petit peu la tangente que ça prend. Aujourd'hui, aux nouvelles, on apprenait qu'il y aurait des milliards supplémentaires pour aider, entre autres, l'Italie et la Grèce à s'occuper des migrants. Mais on a vu des reportages récemment sur les camps, entre autres en Grèce. C'est une catastrophe. Donc, voilà un petit peu le contexte actuellement en Europe. On va le suivre, évidemment, parce que c'est un des dossiers qui nous intéresse. On vous en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Donc, voilà, ça ferait le tour un peu de mes sujets pour aujourd'hui. Juste vous dire que dans 3 semaines, pour finir l'été, Simon va être ici. Et après, on prend aux 2 semaines en septembre, toujours avec la belle gang d'En profondeur. Merci à vous.